Johan a récupéré tout son linge sale sous le bras. Elle s'apprête à sortir du camping-car pour aller au ruisseau.
« Tu devrais pas te reposer, t'es pâle. »«
Non, ça va. L'eau fraîche me fera du bien. »
Elle file. Elle fuit sans doute la morosité qui doit transpirer par tous les pores de sa peau. Elle a raison. Il retourne s'asseoir à la petite table pliante devant une nouvelle feuille blanche. Il faut qu'il chasse l'aura de son esprit s'il veut réussir à écrire quelque chose. C'est impossible. Elle est partout. Sa voix résonne dans sa tête.
Expliquer quoi ?
Sa voix exaspérée, son visage légèrement agacé au-dessus de son café.
Pourquoi tu veux partir ?
Elle avait relevé ses cheveux en chignon et porté deux perles aux oreilles. Elle avait un rouge à lèvres rose pâle qui lui faisait une bouche fantastique. Pourtant, il ne pouvait plus la toucher. Elle allait partir.
On n'est plus en phase.
Ce jour-là, elle triturait en permanence le petit anneau à son doigt, une bague qu'elle portait toujours, même pour dormir la nuit.
On n'est plus en phase parce que tu penses qu'à sortir.
N'inverse pas les choses, Émile.
Comment tu voulais qu'on soit en phase? Tu pensais qu'à une chose, te tirer d'ici pour faire la fête. On faisait que se croiser.
Tu inverses les choses.
Mais qu'est-ce que j'inverse?
Il ne pouvait s'empêcher de crier. Elle était là, si proche, devant lui, dans leur appartement, et pourtant, elle était inaccessible à tout jamais.
J'ai commencé à sortir parce qu'on n'était plus en phase. C'était plus facile pour moi de fuir en multipliant les soirées plutôt que de m'apercevoir que c'était fini, qu'on n'avait plus rien à faire ensemble.
Non, on était très bien ensemble. T'as tout fait foirer en voulant jouer les allumeuses en soirée.
Elle s'était levée de table. Elle avait pris son sac à main, s'était dirigée vers l'entrée. Il avait crié.
Non, Laura, attends!
Sa voix s'était brisée. Il n'était plus rien. Il aurait rampé à ses pieds s'il l'avait fallu. Elle s'était énervée.
« Je suis juste venue pour toi, juste parce que tu voulais parler, je suis pas venue pour t'entendre m'insulter. »
Il avait voulu lui attraper le bras, mais elle l'avait repoussé.
« Excuse-moi, Laura, excuse-moi. »
Elle avait laissé tomber son masque d'irritation quelques instants, et il avait vu la tristesse sur son visage. Il avait compris qu'elle souffrait aussi, d'une façon différente, mais elle souffrait.
Je veux que tu me le dises. Si t'as quelqu'un, je veux savoir.
Elle avait soupiré. Elle avait pris sur elle pour rester calme et gentille.
Y a personne. Je te l'ai déjà dit et redit.
Tu m'as pas trompé?
Je ne t'ai pas trompé.
Tu me le dirais?
Je te le dirais.
T'en as eu envie?
Elle avait esquivé la question. Il avait dit...
Tu veux pas qu'on retourne s'asseoir dans la cuisine ?
Et il n'avait plus voulu reposer la question ensuite, car il avait compris quelle était la réponse. Ils avaient repris leur place dans la cuisine. Il avait pris sa tête entre ses mains. Il avait la sensation douloureuse de se décomposer de l'intérieur.
Pourquoi on...
Il n'avait pas pu terminer sa phrase. Elle l'avait encouragé.
Pourquoi on quoi ?
Pourquoi on n'était plus en phase?
Je crois que j'étais prête à construire quelque chose, à devenir une adulte. Mais toi, non, pas encore.
Il avait réagi au quart de tour, élevant la voix.
Tu mens, j'avais accepté pour le bébé.
Elle avait eu un sourire triste.
Ouais, tu avais accepté, mais c'était trop tard. Et pour la mauvaise raison.
Maman et papa, Marjo et Bastien, Renaud et Laetitia et toutes vos progénitures.
Voici un courrier qui arrive trop tard selon vous. Cela fait déjà 5 jours aujourd'hui que je suis parti, mais trop tôt pour moi. J'aurais voulu avoir plus de temps pour l'écrire. Je ne suis pas encore tout à fait au clair sur ce qui se passe dans ma tête, mais je ne pouvais pas vous faire attendre éternellement.
Il s'est obligé à commencer la lettre pour chasser les pensées qui le ramènent à Laura. Il boit une gorgée de thé et reprend vite son stylo pour ne pas perdre le fil. Je pourrais vous faire une liste des raisons qui m'ont poussé à partir. Ça pourrait vous aider à comprendre et à me pardonner. Vous pourriez en trouver au moins une qui serait valable, pour chacun d'entre vous. La première et la plus évidente,
c'est que je ne veux pas de cet essai clinique et que je ne veux pas crever branché à des électrodes. Je ne veux pas être un rat de laboratoire. Si la maladie doit m'emporter, qu'elle m'emporte, mais par pitié, que tous ces médecins me fichent la paix. La deuxième raison, celle qui explique ma fuite, c'est que je ne veux pas devenir un poids pour vous. Si j'étais resté, ça se serait produit. Vous avez mieux à faire, tous autant que vous êtes. La troisième raison tient plus à une histoire de fierté et d'ego. Est-ce qu'elle est moins louable ? Je ne sais pas. Mais voilà, je ne veux pas ternir l'image que vous avez de moi. Je préfère partir, égoïstement sans doute, en vous laissant une image de moi telle que je l'imagine. Jeune, beau, musclé, plein d'avenir, dynamique, séduisant. Riez, oui. Je ne veux pas devenir sénile, délirant. Je ne veux pas qu'on m'aide à me rappeler mon nom, qu'on doive me réapprendre à lacer mes chaussures ou à faire cuire un œuf. Je ne veux pas que la dernière image que vous ayez de moi soit celle d'un homme diminué et vulnérable, surtout le dernier point. J'ai ma fierté comme tout le monde. Je préfère vivre mes derniers mois à l'abri de vos regards. Une autre raison, plus sympathique celle-là, c'est que j'ai toujours voulu le faire, ce fameux voyage en pleine nature. Renaud, on se l'était juré. Tu auras probablement le temps de le faire plus tard avec Laetitia et le Morveux. Pour moi, c'est maintenant ou jamais. C'est plutôt chouette de partir en réalisant un rêve. Je n'ai pas voulu des adieux, je suis lâche. Ça fait aussi partie de mes qualités. C'est comme pour cette lettre, c'est plus facile qu'un coup de téléphone. Je ne sais pas si je vous appellerai un jour, mais je vous écrirai, c'est sûr. En tout cas, aussi longtemps que je me souviendrai de vous. Je ferai l'effort de vous écrire des petites lettres individuelles à l'avenir. Mais soyez indulgents, j'ai besoin de temps pour sortir des mots. Ça viendra. C'est maintenant le moment larmoyant où je dois vous dire que je vous aime, que vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, et que je suis heureux. Hop, c'est fait. Soyez patient, une prochaine lettre arrive très vite. Je vous embrasse, Émile. Il a l'impression de fuir une fois de plus, d'esquiver encore les adieux. Peu importe. Dans quelques mois, il ne sera plus. Ceux qui resteront s'arrangeront avec leurs souvenirs pour s'inventer des adieux convenables et des raisons valables. Joanne est assise en tailleur dans l'eau qui lui arrive au milieu du ventre. Elle a étendu leurs vêtements fraîchement lavés tout autour d'elle sur des rochers. Elle tourne la tête vers lui en entendant ses pas sur les galets. « Tu as fini ta lettre ?» Il hausse les épaules. Il a toujours un air maussade. « Ouais. Tu vas la poster aujourd'hui ?»« Ou demain, quand on ira faire des courses pour la randonnée. » Le silence retombe. Il reste planté sur la rive à danser d'un pied sur l'autre. Il est raide. Joanne promène ses mains à la surface de l'eau, produisant des clapotis. « Tu es déçu ?» interroge-t-elle. Il fronce les sourcils. « Quoi ? Tu es déçu de ce que tu as écrit ?»« Ouais, un peu. » Il esquisse un semblant de sourire. « Ça se voit à ma tête ?» Elle garde un visage inexpressif en répondant. « Ouais, mais c'est pas grave, tu en écriras d'autres. » Il ne répond pas tout de suite. Il la regarde promener ses mains à la surface de l'eau, se gratte la gorge. « Ouais, mais j'ai pas tout le temps pour ça. » Joanne se tourne entièrement vers lui cette fois. Elle ramène ses genoux contre sa poitrine, lève son visage pâle vers lui. « Parce que tu vas mourir ?» Elle a cette façon de demander d'une voix douce mais nette, sans s'embarrasser d'aucune gêne. Il aime bien ça. Il prend son temps pour s'asseoir sur un gros rocher, retirer ses chaussures, ses chaussettes et enfoncer ses pieds dans l'eau fraîche. « Non, j'ai encore du temps avant que ça se produise. Enfin, je crois. » Il joue quelques secondes avec l'eau du bout de ses doigts. « 2 ans ?» dit-elle. « C'est une estimation. 2 ans, c'est suffisant pour écrire une vraie lettre, non ?» Elle le regarde avec sérieux et elle a l'air d'une vraie adulte, pas d'une petite fille perdue comme il l'a cru les premiers jours. « C'est pas ça le problème. »« C'est pas le temps qu'il te reste ?»« Non. C'est quoi ? » c'est que je vais tout oublier. Peut-être dans 6 mois, mais peut-être demain. Alors je sais pas vraiment si j'aurai une autre occasion de l'écrire, cette lettre.
Johan a une moue qui signifie qu'elle réfléchit.
Ouais, dans ce cas...
Elle continue de réfléchir en faisant de petits cercles avec ses mains à la surface de l'eau.
Dans ce cas, tu devrais écrire un peu tous les jours, dès qu'il te vient une pensée, quelque chose que tu aimerais dire.
Il soupèse la question en faisant rouler des cailloux sous ses pieds au fond de l'eau.
Et envoyer ces fragments de lettres au fur et à mesure ?
Johan secoue la tête.
T'es pas obligé de les envoyer ? C'est pas obligé de ressembler à des lettres ?
Il fronce les sourcils sans comprendre. Elle poursuit.
Ça peut être un petit carnet que tu rempliras de mots tout au long de ton voyage.
Des mots qui ne leur arriveront jamais.
Si, le carnet leur reviendra.
Et comment? Quand j'aurai tout oublié de ma vie, j'aurai oublié le carnet, à qui il était destiné.
Je pourrais leur envoyer, moi.
Toi?
Oui.
Tu me donneras une adresse et je m'engagerai à leur envoyer le carnet quand tu seras décédé. Il a une grimace incontrôlable. Il a du mal à l'entendre prononcer si clairement qu'il va mourir.
Tu peux l'écrire pour toi, ce carnet,
ajoute-t-elle. Comment ça?
Tu as peur de tout oublier.
Ouais.
Mais tu auras toutes ces choses, tous ces souvenirs consignés dans le carnet. Ça t'aidera à te rappeler quand tu ne sauras plus qui tu es, ce que tu fais là.
Cette conversation lui file le bourdon. C'est encore pire que tout à l'heure quand il plongeait dans les souvenirs de Laura.
J'ai pas très envie de parler de ça maintenant.
D'accord.
Elle replonge ses deux mains dans l'eau jusqu'à faire disparaître ses avant-bras dans le courant. Elle ajoute de sa voix fluette.
Tu me donneras simplement des instructions.
Pour ?
Si je dois faire parvenir quelque chose à quelqu'un.
Ah, ouais.
Le silence retombe. Émile sent la boule grossir dans sa gorge. Il aime que Johan parle librement de ce qui va arriver, qu'elle ne s'en montre pas gênée. Pourtant, il est dérouté par la facilité avec laquelle elle le fait. C'est comme si la mort, sa mort, ne représentait pas grand-chose, juste une formalité en ce bas monde. C'est bien et c'est troublant à la fois. Il a fui ses proches pour cette raison, pour se détacher de ça. Les liens, l'attachement, la douleur du départ. C'est plus facile de mourir en présence d'une inconnue qui vous regarde avec indifférence. C'est plus facile de n'avoir plus rien à quoi se rattacher le moment venu. Mais c'est troublant. Il se racle la gorge.
En parlant d'instructions...
Johan a l'air surprise d'entendre sa voix. Elle a dû replonger dans ses pensées, loin, bien loin du ruisseau, de son amnésie et de sa mort à venir.
Il arrivera sans doute un moment où je serai plus vraiment là, où je réclamerai à rentrer à la maison.
Elle hoche la tête avec gravité.
Je veux pas que tu me ramènes. Quoi que je fasse, même si je supplie. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça.
Elle ne demande pas d'explication, de raison à cela. Elle n'exprime pas de surprise ou d'étonnement. Elle n'émet aucun jugement. Elle se contente de hocher la tête. Elle est là pour recevoir des instructions et veiller à ce qu'elles soient respectées. Rien de plus. C'est leur contrat tacite.
D'accord.
Il déglutit avec difficulté. C'est un bon point de régler. Demain, il postera sa lettre. Peut-être qu'il achètera ce carnet. Il verra. Johan a fait une sieste tout l'après-midi. Elle est encore pâle, mais elle dit que le mal de tête est passé. En se levant, elle le trouve immobile face à sa lettre.
« Tu la relis ?»
Il secoue la tête.
« Non, je réfléchissais à cette idée de carnet. »
Elle ne demande pas s'il a décidé d'en acheter un. Elle pose une question totalement différente qui le prend de court.
« Comment ils vont te répondre ?»
Il reste muet, ouvrant et refermant la bouche en silence.
Ils n'ont pas d'adresse où t'écrire,
ajoute Johan.
Non, mais...
Mais ?
Je me débrouillerai.
Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut juste dire qu'il n'a jamais envisagé de recevoir une réponse de leur part.
Il secoue la tête pour chasser l'hébétement qui le gagne.
On ne devait pas remplir le réservoir d'eau.
Si.
Alors viens, on va s'en occuper.
Johan est allé se coucher tôt. La morosité n'a pas quitté Émile. C'est encore pire maintenant qu'il fait nuit et que Johan dort. Le parking est vide. Ils sont les seuls ici, on dirait. Il est allé chercher le carton dans le placard mural, celui qui contient toutes les photos. Depuis cet après-midi, il repense à la remarque de Johan sur sa lettre. Comment ils vont te répondre ? Il se demande pourquoi il n'y a pas pensé, pourquoi il n'a jamais envisagé de recevoir de réponse de leur part. Est-ce qu'il refuse d'en avoir ? Est-ce qu'il a peur de renoncer et de rentrer à Roanne s'il en reçoit ? Est-ce qu'il se sent déjà trop loin d'eux, de la vie, pour vouloir rester en contact ? Il ouvre l'un des albums contenus dans le carton au hasard. L'écriture de sa mère couvre toutes les pages. Sur le premier cliché, on la voit justement, enceinte jusqu'aux yeux. En légende est inscrit « En attendant bébé ». Une fleur a été dessinée à côté de la photo, sans doute par Marjorie. C'est donc lui que sa mère attend sur ce cliché. Quelques mots ont été couchés en bas de page. 13 mars, les prénoms ont été choisis. Émilie si c'est une fille, Émile si c'est un garçon. Papa devient nerveux, Marjorie trépigne. Il n'y a que maman qui reste calme. Il laisse son doigt se promener sur la page. Il se demande comment il aurait réagi, lui, si Laura avait porté un bébé. Est-ce qu'il aurait trépigné ? Est-ce qu'il se serait montré nerveux ? Ou est-ce qu'il ne l'avait jamais vraiment envisagé ? Tout ce qu'il voulait, c'était que Laura reste et qu'elle soit comblée. Le bébé n'était qu'un plan, un vulgaire instrument. Il tourne la page avec un arrière-goût amer dans la bouche. Elle a raison, il a été le pire des égoïstes. Tout ce qu'il voulait, c'était l'empêcher de partir. Les premiers clichés de lui, bébé. On le voit à la maternité. On y voit ses parents rayonnants, Marjorie qui est haute comme trois pommes, penchée au-dessus de lui, intriguée. Elle avait 4 ans quand il est né. Il passe les pages plus vite et change d'album. Son album de naissance n'est pas des plus amusants. On le voit rouge et joufflu dans toutes les postures possibles. Le suivant lui fait faire un bond de 6 ans en avant. Il est écolier, les cheveux brun foncé. Il joue au basket, il fait du skate. Il recueille un oiseau dans un buisson. Il n'y a plus autant de commentaires autour des photos. Marjorie a 10 ans sur les clichés. Elle a de longs cheveux bruns ondulés, des taches de rousseur. Elle est toujours là à lui tenir la main, à vouloir lui porter son sac. Il se rappelle que ça l'a agacée quand il a grandi. Elle était toujours sur son dos. Il la trouvait trop collante. Pourtant, pendant de longues années, il ne s'en est pas plaint. Il avait une deuxième maman à la maison. Elle le prenait un peu trop pour son poupon, mais c'était agréable. Elle lui passait tout. Elle cédait à tous ses caprices. Elle le couvrait. Vers 10 ans, 11 peut-être, il en a eu assez. Il se rappelle des gamins dans le quartier. Marjorie et Émile sont amoureux. Les « ouh » qui résonnaient chaque fois qu'elle le prenait par la main. Renaud ne disait rien, mais tous les autres se moquaient. Tantôt elle était son amoureuse, tantôt il était le gros bébé à sa maman Marjorie. Marjorie s'en moquait. Elle l'exhibait fièrement devant ses copines. Voici mon petit frère. Elle l'asseyait sur ses genoux et lui mourait de honte car il ne savait pas comment se comporter avec tous les regards braqués sur lui. Il avait décidé de s'en débarrasser, elle était trop collante et il en avait marre des moqueries débiles. Il se rappelle que ça avait été violent. Il la repoussait sans ménagement, partait vite sans elle à la sortie de l'école. Elle ne comprenait pas. Elle essayait encore de recoller les morceaux. Alors, il avait été plus méchant. Il lui avait dit qu'elle était moche et grosse devant toutes ses amies. Ce soir-là, il l'avait fait pleurer. Il l'avait entendue dans la cuisine le soir. « Maman, je crois qu'Émile ne m'aime plus. » Il se rappelle bien ce que sa mère avait répondu. « Mais non, il devient un vrai petit garçon. Il a besoin d'indépendance. »«
Mais pourquoi ?»«
Il doit apprendre à se débrouiller tout seul. » Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus.
Non ?
Non. Dans quelques années, il reviendra de lui-même vers toi. Tu verras. Il sait qu'il a beaucoup fait souffrir Marjorie. Il se rappelle qu'après ça, ils avaient connu une longue période où ils étaient redevenus un peu des inconnus l'un pour l'autre. Marjo avait 14, 15, 16 ans. Elle sortait avec des amis. Il l'avait vue avec un garçon un jour. Ils s'embrassaient avec la langue. Ça lui avait donné un haut-le-cœur. Elle avait eu besoin d'indépendance, elle aussi. Son petit monde s'était mis à tourner autour d'elle, de ses amis et de ses boutonneux qui lui tournaient autour. Elle se disputait beaucoup avec les parents, il se souvient. Son père élevait la voix, elle claquait les portes. Lui, il l'observait comme un spécimen étrange. Il ne reconnaissait plus la grande sœur qu'il avait connue, si douce, si attentionnée. Elle avait des boutons sur le visage, des trucs étranges qui poussaient sur sa poitrine. Il s'en moquait avec ses copains. Il disait « Burk, des bouts de gras !» Il savait pertinemment ce qui arrivait à Marjorie, mais il préférait jouer les idiots. Ça le fait sourire en y repensant. Il continue de tourner les pages. Ici, Marjorie tient fièrement entre ses mains son diplôme. Elle a 20 ans. Elle vient de décrocher un BTS dans le secteur bancaire. On a obligé Émile à poser à côté d'elle. Il a 16 ans et il porte un t-shirt noir beaucoup trop large. C'est à cette époque qu'il a recommencé à regarder Marjorie différemment. Elle avait fini sa mauvaise période. Elle avait quitté la maison pour les études et elle était de nouveau la grande sœur calme et douce qu'il avait connue. Les années avaient filé à toute vitesse. Marjorie s'était mariée, était tombée enceinte des jumeaux. Émile continue de faire défiler les pages. Marjorie en robe blanche, Bastien avec un nœud papillon, Marjorie enceinte. Il est en photo avec les jumeaux, là. C'est lorsque Laura est partie et qu'il est tombé au fond du gouffre que Marjorie a repris son rôle de maman. Elle a recommencé à le materner, mais avec une certaine distance, sans l'innocence de leurs premières années. Elle est maman aujourd'hui. Elle ne l'aime plus de manière inconditionnelle. Ce sont ses enfants qui remplissent sa vie maintenant. Il ne sait pas s'il en est peiné. Il songe que c'est normal, que c'est dans l'ordre des choses. Il n'a pas vu passer toutes ces années. Il a 26 ans. Dans 2 ans, il ne sera plus. Comment peut-on perdre pied aussi vite dans sa vie? Il referme l'album. C'est suffisant pour ce soir, il se sent épuisé. Il se lève, étouffe un bâillement en passant devant la banquette où Johan a désormais établi son campement, puis il grimpe à l'échelle en corde en songeant encore un peu à Marjorie. Il lui écrira une lettre. Demain ou dans 2 semaines, ou dans 6 mois, mais il le fera.